bienvenue à Escale 17-18 à la fille du Jean Blas au micro. Nicolas Spatman à la technique. Je te vois pas, il y a l'autre micro qui me cache là, je vois même pas ton visage, Nicolas. Voilà. Ah, tu me vois, je te vois maintenant, tu me vois aussi. Voilà. Et toi, Myriam qui est déjà en ligne avec nous. On va parler de sport. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Jean-Frédéric Caron, qui est le directeur général de l'Orchestre de l'Agora, qui va nous parler du Gala de la Terre pour les enfants, présenté par l'Orchestre de l'Agora. Ça se passe, le 22 juin, oui, à la Salle Symphonique de Montréal. Parce que n'oubliez pas, le 22 juin, c'est la Journée de la Terre. Hein, donc, ce spectacle, ça tombe très bien. C'est Jean-Frédéric Caron, qui est le directeur général de l'Orchestre de l'Agora, qui va nous parler de ça. Voilà. Alors, Myriam est déjà là. Je lui dis bonjour et puis on va apprendre les nouveautés sportives. Bonjour Myriam.
Bon après-midi sous ce ciel orageux.
Oh.
Chance comme la tendance se maintient depuis ce printemps.
Oh, oui.
Alors tous les jeudis il pleut, mais aujourd'hui c'est la totale.
Aujourd'hui c'est un peu exact, c'est un peu trop. Mais on n'a pas de grêle de forme de tennis.
Mais on a des inondations. Alors on commence par la Formule 1.
Merci de me donner ces nouvelles.
Alors, on commence par la Formule 1. Vous savez, c'est le Grand Prix du Canada ce week-end. Hein? Alors, les festivités déjà ont commencé au centre-ville ce jeudi, mais officiellement, les essais commencent demain, les qualifications samedi et dimanche, la course du Grand Prix du Canada de Montréal. Ça faisait 2 ans qu'on n'en avait pas eu à cause de la pandémie. Donc, ce week-end, ça sera au circuit Gilles Villeneuve. Si des milliers de personnes trépignent déjà l'idée d'enfin voir les monoplaces tourner en piste, et ben même les coureurs aussi. À quoi s'attend cette année selon plusieurs analystes? Est-ce que tu connais un peu la Formule 1, Fulgence?
Ah oui, je m'intéresse beaucoup.
Ah oui, ok.
Il y a des coureurs que j'aime là-bas. Bon, non,
oui,
je connais,
on sait bien. On
je
sait
suis
bien.
Un peu le parcours, le seul noir de ce sport. Comment il s'appelle?
Du britannique Lewis Hamilton.
Oh oui, qui
d'ailleurs,
cette année...
D'ailleurs, on en parle justement.
Voilà.
Alors, il tentera de devenir cette année le pilote le plus victorieux de l'histoire du Grand Prix du Canada. Ça, je ne savais pas. Il compte présentement 7 victoires à Montréal en 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 et 2019. Ce qui le place à égalité avec qui? Le grand Michael Schumacher. Alors, sauf que l'écurie Mercedes, malheureusement, cette saison éprouve des ennuis. Et donc, elle ne part pas favorite pour la victoire.
Est-ce que tu sais pourquoi, Myriam? Parce qu'il y a pas mal de techniciens qui sont partis ailleurs.
Oui, et puis ils n'arrivent pas, hein, ils ont des problèmes avec Mercedes.
Oh, et ils n'ont pas recruté, voilà.
Ils n'ont pas recruté. Mmh. Pour la victoire, on va plutôt se pencher, selon des analystes. Hein, alors, plusieurs, on va se pencher plutôt vers Ferrari, on va regarder Ferrari et Red Bull. Alors, Ferrari avec Charles Leclerc et Red Bull avec Max Verstappen, qui nous offre une lutte très serrée depuis le début de la saison, tous les deux. Alors, selon l'affiche, donc les résultats, le circuit Gilles Villeneuve avantagerait plus l'équipe de Red Bull. Ces derniers ont souvent le dessus sur les lignes droites cette saison, alors que Ferrari sont plus à l'aise dans les virages. Or, qu'est-ce qui se passe au Gilles Villeneuve? Eh bien, il compte de nombreuses lignes droites et plusieurs zones, donc de DRS, qui seraient plus à Max Verstappen, donc depuis le début de la saison. Donc, il va falloir suivre ça de près. Pour nos Canadiens, est-ce que tu connais nos Canadiens?
Oui, vas-y,
ah,
je t'écoute.
C'est qui? Alors, on a Lance Stroll et Nicolas Latifi.
Oui, Nicolas, il est né. Oui, il est né ici, mais il a grandi à Toronto.
Oui, c'est ça.
Il est né à Montréal, mais il a grandi à Toronto.
Exact. Oui. Dans les deux cas, le début de saison n'est pas fameux. Hein, ça ne leur sourit pas trop. Soulignons que le Torontois Latifi suscitera quand même de l'intérêt. Pourquoi? Ben, comme tu viens de le dire, il a d'ailleurs hâte d'ailleurs à la compétition. Le pilote de l'écurie Williams participera d'abord pour la première fois à l'épreuve à Montréal, après 3 saisons en F1. Il a confié hier en conférence de presse, hier après-midi, « Oui, c'est très spécial pour moi ici, car je suis né ici à Montréal, mais j'ai grandi à Toronto. J'ai beaucoup de membres de ma famille immédiate, toujours ici, et des amis très proches, et ils seront tous dans les gradins ce week-end. » Alors, il a dit « Je suis très excité d'être là. » Du côté d'Aston Martin, ben Stroll peine à extraire le maximum de sa monoplace, si bien qu'il a terminé dans les derniers, hein, depuis les 8 premières épreuves qui se sont passées. Mais en tout cas, on a quand même les Canadiens qui sont là. Alors, le Grand Prix du Canada se mettra en branle donc avec les 2 premières séances d'essais libres vendredi, demain. Alors, pour les amateurs, allez-y, je sais qu'aujourd'hui il pleut, mais demain, ça sera un peu meilleur.
On espère.
On passe maintenant au soccer. Alors, plusieurs sujets au soccer. On va parler du Mondial 2022. Eh bien, Fulgence, ça y est, c'est terminé. toutes les places sont prises.
Ah, la dernière place.
Ça y est, c'est fini. Ça y est, il n'y a plus, hein, c'est fini. Alors, avec la qualification du Costa Rica, le plateau est complet pour la Coupe du Monde au Qatar, qui va se tenir du 21 novembre au 18 décembre. C'est proche, hein, c'est proche.
Oui.
Ceux qu'on surnomme les Ticos, hein, le Costa Rica, on les surnomme les Ticos,
oui,
ont arraché le 32e et dernier billet à la Nouvelle-Zélande par un 1-0 grâce à un but de Joel Campbell, un ancien d'Arsenal. Alors, les coéquipiers du gardien de Paris Saint-Germain, n'oublions pas, Keylor Navas, un des meilleurs gardiens au monde, se sont qualifiés donc pour leur 6e Coupe du Monde et leur 3e consécutive. Il faut se méfier du Costa Rica, hein. Il vient un peu déjouer les jeux des fois.
C'est un petit pays qui fait son petit bout de chemin en
oui,
matière de
oui,
soccer.
Oui,
il y a de très bons joueurs là-bas au Costa Rica.
Oui. Alors, les drapeaux des deux autres nations, donc récemment qualifiés aussi, c'est le Pays de Galles, on l'avait dit l'autre fois, et l'Australie. Ils seront ici aux côtés des 29 autres équipes déjà représentées autour de l'horloge, marquant le temps restant avant le tournoi en novembre. Alors, l'affiche officielle, ben, hier, du Mondial 2022, a été dévoilée dans la capitale Doha.
Oui.
Elle représente en noir et blanc la coiffe traditionnelle, avec des hommes agités dans les airs en signe de célébration avec un but. Apparemment, ce geste est un geste commun au Qatar. Donc, c'est pour la première fois en plus qu'on donne à une femme de réaliser ce projet. Et c'est l'artiste qatari Boutaina Al-Moufta. C'est elle qui a fait cette affiche donc officielle du Mondial 2022. Vous pouvez aller le voir maintenant partout. Ça y est, elle a été dévoilée hier. On passe à autre chose.
Je ne savais pas qu'il y avait des artistes féminines là-bas
au
Qatar.
Le Qatar, c'est spécial. Hein.
Oh, oui.
C'est ça, le Qatar. Oui, oui, oui. Oui. C'est
puisqu'on pas permet la même chose. On ne permet pas aux femmes de conduire. Si elles ont le droit de faire de l'art, pourquoi pas.
Je ne suis pas sûre qu'au Qatar, c'est ça. C'est plutôt l'Arabie Saoudite qui est la plus dure.
Ah, bon, d'accord.
Au Qatar, c'est un peu différent.
Okay.
Alors, on a l'équipe. Maintenant, passons au soccer avec ton équipe favorite, l'équipe nationale féminine canadienne.
Oui.
Alors, la sélection est faite parce que aussi ils entament maintenant leur match de la séquence internationale. Car sachez qu'en 2023, l'été 2023, c'est le mondial des femmes au soccer.
Oui.
Alors, Soccer Canada a dévoilé la formation de son équipe parmi les 28 joueuses choisies par l'entraîneur-chef Bev Priceman. 21 d'entre elles ont participé à la conquête de la médaille d'or olympique aux JO de Tokyo. On les a suivies cet été, l'été dernier, vous vous rappelez. Alors, le 26 juin prochain, la séquence internationale débutera contre qui? La Corée du Sud, à Toronto, au stade BMO Field.
J'aimerais bien les voir à Montréal.
Elle est là, je sais que tu les aimes. La célèbre attaquante Christine Sinclair est toujours là et elle sera à titre de capitaine, comme mais toujours. Rappelons qu'elle a son actif quand même, rappelons-le tout le
attention,
temps.
Attention, je croyais qu'elle raccrochait ses crampons.
Pas Christine Sinclair, non, ça se confond avec la gardienne. La gardienne, oui, elle a raccroché ses crampons.
Ah, non, Christine oui, je sais Sinclair. Que la gardienne est partie, mais Christine Sinclair est encore là?
Oh oui, elle sera capitaine, rappelons quand même, elle a 188 buts sur la scène seulement internationale, je parle, le plus haut total de tout genre confondu. Alors, c'est-à-dire hommes et femmes, c'est elle qui a le plus de buts sur la scène internationale.
Il va falloir que j'aille chercher son âge à peu près. Là. Moi, je croyais qu'elle allait, après cette victoire aux Jeux Olympiques, là.
Elle a encore à donner, je pense. Hein.
Oui, d'accord. Ouais.
Alors, on a aussi l'attaquante, je vous parle de quelques-unes qui sont là, qu'on connaît. On a l'attaquante québécoise Evelyne Vien, fait un retour dans l'équipe après avoir été laissée de côté à la dernière séquence. Elle a inscrit 8 buts en 14 parties avec son club en Suède cette saison. Donc, la coach l'a appelée pour être sélectionnée. Et on a aussi Kadeisha Buchanan, on l'avait vu, qui a récemment remporté en passant la Ligue des champions de l'UEFA avec Lyon avant de rejoindre sa compatriote Jessie Fleming à Chelsea maintenant en Angleterre. Elle sera la pierre centrale, à ce qui paraît, de l'équipe, hein, attaquante centrale.
C'est ce qui donne donc, la force de ces filles-là au Canada. Bon, pas mal, chez les hommes aussi, il y a pas mal qui jouent en Europe.
Oui, donc, elles n'ont plus peur de beaucoup de jouent à Lyon, à Paris Saint-Germain,
oui,
à Chelsea. Il y en a beaucoup qui jouent
non,
là.
Elles n'ont plus peur de ces joueuses en provenance d'Europe, l'Allemagne et autres. Là. Non, elles se connaissent entre elles là-bas, voilà, c'est ça.
Ouais, exactement. C'est pas pour rien qu'on a gagné la médaille d'or.
C'est ça.
Alors, donc, il faudra les suivre le 26 juin. On sera pas là, Fulgence, mais je dis aux gens, donc aux amateurs, le match sera le 26 juin prochain. Alors, plus de Alors là, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les amateurs. Écoute, Fulgence, je vais tomber de ta chaise.
Ah oui, c'est cette histoire-là. Ouais, vas-y, va les suivre, prends-nous, là.
Plus de diffusion de la MLS au Québec. Tu te rends compte? La mauvaise
À la télé, tu veux dire?
Oui, ben oui, à la télé. Pour les amateurs de la MLS du Québec et ses partisans du CF Montréal, les matchs ne seront plus présentés par TVA.
À partir de quand?
De la saison prochaine, l'an prochain. La MLS a annoncé ce mardi avoir signé une entente de diffusion exclusive avec la plateforme donc continue Apple TV. Selon les médias spécialisés, l'accord se chiffre à 250 millions de dollars par année pendant 10 ans. Alors la seule solution pour le Québec maintenant est de devoir négocier avec Apple afin de pouvoir présenter certains matchs, pas tous.
C'est qu'ils ont dormi les chaînes de télé. Elles ont tenu ça pour acquis quoi.
En ce moment, les plateformes. J'ai quelqu'un que je connais qui me dit il y aura plus de télé un jour. Il y aura que des plateformes sur lesquelles on va devoir aller.
Tout sera numérique. Non, de toute façon, nous on est numérique depuis le début. Alors.
Déjà en avance. Nous. Alors, sachez que TVA Sport a fait savoir que les matchs du CF Montréal, elle a annoncé tout de suite, ne seront plus diffusés comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et c'est vraiment une grosse nouvelle.
Ça veut dire que Mireille, ils vont pousser les gens à aller faire un abonnement avec Apple TV.
Exact. Et oui, ça c'est grave hein, quand même. Tu peux plus regarder maintenant ton équipe montréalaise à la télé sur TVA. C'est incroyable.
Où il faut se plaindre au fait. Il faut les propriétaires du club ou bien tout le monde.
Je pense qu'il faut se plaindre à la Ligue d'abord, à MLS, la première, celle qui a pris cette décision.
Oui, parce que c'est pas le club qui a pris cette décision, c'est MLS qui a pris cette décision.
Elle a fait ça pour tous les matchs à ce qui paraît de la MLS. Alors la chaîne se dit surprise de cette décision et bien déçue. Et elle conclut, cela va nuire à l'engouement et à la visibilité du soccer au Québec.
C'est vrai.
Et les dirigeants, par contre, eux de la Ligue, ont affirmé de leur bord qu'avec Apple TV, c'est le partenaire parfait pour accélérer la croissance de la MLS. Et le président d'Apple, lui, soutient, pour la première fois dans l'histoire du sport, les amateurs de soccer et de MLS pourront avoir tout ce qui se passe dans le monde sur cette plateforme. Et de ce sport professionnel et dans un seul endroit. Alors eux,
dans un seul endroit, mais il faut avoir l'abonnement.
Exact. Ouais. À noter qu'apparemment, les matchs seront présentés en anglais et en espagnol. Et pour ceux qui incluent les matchs des équipes canadiennes, ils auront la possibilité, apparemment, c'est ce qu'on dit pour l'instant, la possibilité de le voir en français. Alors, voilà, aux amateurs et à bon entendeur, salut, c'est fini, la MLS sur TVA et au Québec. Il faudra s'abonner à une plateforme.
Myriam, heureusement que ça ne concerne pas la Coupe du Monde 2022.
Exact.
Heureusement que ça ne concerne pas le Qatar 2022.
D'ailleurs, et c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais rebondir sur ça. D'ailleurs, on pourra quand même, je pense, regarder le CF Montréal quand il est en situation de CONCACAF. Tu comprends?
Wow.
Parce que ce n'est pas la Ligue MLS, ça devient la CONCACAF, donc une autre ligue ailleurs. Donc, je pense qu'on pourra quand même voir ça. Bon, ils ont joué un match comme ça la semaine dernière, hein, donc je pense une fois tous les temps en temps, quand il y a des matchs comme ça, ben on pourra les voir peut-être. Maintenant, je finis rapidement avec le tennis.
Oui.
C'est un petit survol.
Du nouveauté?
Il y a plusieurs petits tournois en ce moment. Pourquoi Fulgence? Car le week-end prochain, pas celui-là, l'autre, c'est le Wimbledon qui commence.
Oui, la dernière semaine du mois de juin.
Ça commence le 26 juin.
Oui.
Alors, sachez que donc il y a plusieurs petits tournois pour préparer donc les joueurs qui sont des tournois ATP 500 de 500 points ou WTA 500 points.
Oui.
Alors la saison préparatoire donc est lancée. Les tournois se multiplient d'ailleurs entre Stuttgart, Berlin,
surtout que tu as dit la semaine passée qu'il n'y aura pas de points à Wimbledon cette année.
Il n'y aura pas de points. Puis d'ailleurs ils en ont parlé aujourd'hui. Ça y est, Medvedev est numéro 1 et l'autre il a perdu 2000 points. Notre fameux Djokovic.
Djoko a perdu 2000 points.
2000 points. Alors, je pense que ça ne doit pas le faire sourire, ça doit faire grincer des dents. J'ai hâte de voir son faciès quand il va arriver.
Djoko.
2000 points. Djoko, il va frapper, je pense, les gens qui sont autour.
Mais d'où ça vient cette histoire de perte de 2000 points, la Myriam? Ça vient quoi?
Parce que tu te rappelles, ça vient au départ du fait qu'ils ont dit que les joueurs russes ne doivent pas venir jouer. Mais pour leur sécurité, ils leur ont dit, on ne va pas vous poser la question si vous soutenez la guerre ou pas.
Oui.
Pour sécuriser leur famille, leur position politique n'a pas la dévoiler. Alors ils ont dit, mais si on les laisse jouer, il faudra quand même qu'il y ait une sanction. Donc on va s'entendre sur le fait qu'on n'aura pas de points. Tout le monde va venir jouer. Tout le monde peut venir jouer. Et tout le monde n'aura pas de points.
Mais ils auront le cachet quand même.
Ah, ça, je suppose.
Sinon,
ça n'a pas été discuté. Sinon, ils ne viendraient même pas. Mais bon, alors les joueurs auront accepté en grinçant des dents. Mais bon, c'est ça que ça donne. On va faire avec ça.
Oui.
Et donc, dans ces petits tournois, je vous dis faire rapidement, Félix Auger-Aliassime, CIC en quart de finale au Queens. Alors, il va jouer demain. Surveillez-le en quart de finale. Au moins, on sait qu'un Félix Auger-Aliassime arrive toujours en quart de finale. Ça, c'est rassurant.
Oui.
Par contre, Chapovalov, il s'est incliné comme la tendance se maintient pour lui en ce moment. Il s'est incliné au troisième tour, ainsi que bien qu'André Chou à Berlin. Alors voilà, il n'y a que Félix qu'on peut suivre cette semaine, en fin de semaine.
Oui, ce sont des petits. Je n'appelle pas ça, ce ne sont pas des grands chelems, mais c'est le tournoi quand même qui leur permet de se réchauffer avant de se retrouver à Londres.
Réchauffer, hein. D'avoir des points, parce que c'est quand même 500 points, ça, c'est des tournois de 500 points, ce n'est pas négligeable.
Oui.
Alors, donc les joueurs, ils sont tous là. Hein. Medvedev joue, y en a beaucoup qui sont là. Alors, on a les Berrettini de ce monde, on a les Tsitsipas éliminés rapidement lui aussi. Oh, il est parti très vite, lui, en deuxième ronde. Il a été balayé.
Je croyais que la dernière nouvelle, c'était pour annoncer la bonne nouvelle de la part de la famille Nadal qui parle de...
Mais je t'ai entendu en parler hier. Alors, je ne reviens pas dessus.
je ne parle pas de son traitement. Ils ont annoncé lui et sa blonde et sa partenaire a annoncé officiellement qu'elle porte un bébé actuellement là. Donc,
c'est du showbiz.
Et voilà, il veut être papa. C'était le temps. Elle a combien? Elle a 30 ou 33 ans maintenant, là, si je ne me trompe pas.
Il est resté longtemps avec elle. Il a pris du temps pour la demander en mariage déjà.
17 ans
c'est
de vie.
C'est pas rapide, lui.
17 ans de vie commune. Alors, voilà, donc là, maintenant, il va devenir papa. Je ne sais même pas. C'est ça pour ça qu'il va arrêter, je ne sais quoi, là.
Je te laisse ça, l'éco vedette, là.
Merci beaucoup, Myriam.
Alors, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine dernière. Pour la dernière de la saison. Merci, Myriam.
Parfait.
Bonne soirée.
Bonne semaine, au revoir.
Merci à toi aussi.
Shake 'em on down. sugar daddy. Don't sugar daddy. I said, we're gonna go inside. Now, we're gonna shake them on down. Shake them on down.
Just to Funk, c'est le nom du groupe et la pièce qu'on vient d'écouter était Shake Them On Down, Shake Them On Down. Voilà, pour terminer cette première partie de l'émission, je vais faire un clin d'œil voilà, aux résidents, aux habitants de Saint-Fulgence. Donc, c'est pas ma ville d'origine, attention. Nicolas, tu peux bien rire. Il dit, mais il peut pas se passer des catastrophes comme ça à Saint-Fulgence, et puis je vais pas en parler, c'est depuis la fin de semaine passée. Il faut que j'en parle, c'est parce qu'il y a eu un glissement de terrain qui a fait barrage et l'arrivée a débordé. C'est ce qui a fait ces déplacements de population. Je pense que, voilà, ouais. Le glissement des terrains, c'est toujours comme ça. Quand on habite très, 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 très proche des eaux, souvent, des rivières, des fleuves, ou bien des océans, c'est toujours comme ça. À un moment donné, avec les changements climatiques, il y a tout. Il y a ça gratte, ça gratine, ça cherche du terrain. Et puis surtout, les océans qui ont des vagues, hein, on se rend compte quand on voit des images à la télé, avec les années, bon, ce n'est plus vivable. Il faut déménager. Alors, il y a des gens, des habitants de Saint-Fulgence qui sont partis d'eux-mêmes. Ouais, pour une question de prévention, pour Denis, j'attends pas à ce que ma maison commence à descendre, à partir avant que je ne parte. Mais il y a d'autres maisons qui sont complètement parties sans que les propriétaires. Mais je ne sais pas si la situation s'est régularisée ou bien quelque chose comme ça. Je vais essayer d'avoir des infos, les dernières nouvelles pour vous informer la semaine prochaine, la dernière semaine de la saison de cette émission Escale 17-18. Parce que c'est un petit clin d'œil avant, comme on prie dans ses fulgences. Je pense aux habitants de Saint-Fulgence, bien sûr. Voilà, je ne peux pas passer. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Je te laisse le micro, hein, vas-y.
Moi, c'est juste pour dire qu'à chaque fois qu'il y a Fulgence, il y a l'opportunité de faire une référence à son nom. Il l'aime bien. Mais moi, je trouve ça très drôle, j'adore. Comme ses heures de blabla. Voilà.
Non, je n'ai pas parlé de blabla aujourd'hui, je parle de Saint-Fulgence.
Mais là, c'est Saint-Fulgence, qui n'est pas sa ville natale, comme il
dit. Voilà, mais je connais la localité. C'est un petit village non loin de Saguenay.
Mais j'espère qu'ils vont bien quand même.
Bon, il n'y a pas eu de mort. Non. J'ai pensé à eux. Ouais. J'ai dit, mais même si ce n'est pas ma ville natale, quand même, c'est une localité qui porte presque mon nom, quand même, Saint-Fulgence, même si je ne suis pas un saint. Donc, c'est une pensée. Il y a Fulgence après le saint. Quoi. Voilà, là, on met ça de côté. Je ne sais pas quel Saint-Fulgence qui a été là le premier. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Portez-vous bien, pensez à vous. Je vous envoie de l'énergie positive pour ceux qui ont perdu leur maison, leur propriété. Et une pensée positive, plein d'énergie, une tonne de pensées positives à vous. Et puis bon, ben je pense bien que la mairie, la municipalité va trouver une solution pour vous reloger quelque part. J'espère. Alors, c'est pareil, j'ai encore quelques minutes là pour faire du blabla. Ouais, une minute. Je peux pas aborder un autre sujet dans une minute là rapidement. Il faut que je survole. Alors je vais rester là parce que c'est pas seulement là à Saint-Fulgence, ça s'est passé aussi au Saguenay. Hein. Ça c'est dans la région aussi. Il y a eu aussi des glissements de terrain à la baie. Voilà, ça, c'est pour dire que actuellement il y a des inondations et qui se passe. Il y a quand je venais aux environs de 16h30, grande flotte, grande pluie à Montréal. Moi j'ai pas vu les grêles de avec la taille de balles de tennis, hein, mais il y a des régions qui vont avoir ça aujourd'hui parce qu'il y a eu l'alerte d'Environnement Canada pour ceux qui sont dehors. Alors là, il fallait pas rester dehors, il fallait rentrer chez soi, se mettre à l'abri. Moi j'ai tout arrêté chez moi avant de venir là. J'ai coupé la télévision, j'ai coupé complètement arrêté l'alimentation électrique de l'ordinateur et autres. On ne sait jamais, fermer toutes les fenêtres avant de partir. Je me suis dit, tiens, c'est comme ça, Fulgence, prends toutes les précautions nécessaires. Et avant de partir, parce que tu ne sais jamais si tu laisses les fenêtres ouvertes ou si tu arrives, peut-être que avec le vent qu'il y a, il se pourrait que les choses qui sont non loin des fenêtres soient inondées ou bien soient mouillées. Alors, on termine comme ça avec cette histoire des résidents de Saint-Fulgence à qui je fais un clin d'œil. Et puis, on se retrouve juste après la petite pause publicitaire pour parler de... Je vais recevoir Jean pour parler du Gala de la Terre pour les enfants présenté par l'orchestre de l'Agora. Et je vais recevoir le directeur général de l'orchestre de l'Agora, qui est Jean-Frédéric Caron. Voilà. Et le 20, pourquoi le 20 juin? Parce que c'est la journée de la Terre. Ça va pas tomber mieux que ça, quoi. Les détails un peu plus tard, juste après la petite pause publicitaire. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission d'Escale 17-18, une émission quotidienne du lundi au vendredi de 17h à 18h. Le nom le dit d'ailleurs, on n'a pas besoin trop d'aller dans les détails. Alors, mon invité est déjà au bout du fil, Jean-François Caron, qui est le directeur général de l'Orchestre de l'Agora, qui va nous parler du Gala de la Terre pour les enfants, présenté par l'Orchestre de l'Agora. Et ça va être quand? Le 20 juin. Le 22. Pardon, pas le 20. Ça va être le 22 juin 2022. Si je ne me trompe pas, il va me corriger. Et parce que c'est cette journée, c'est la journée de la Terre. Ça ne peut pas tomber mieux que ça, Gala de la Terre pour les enfants. Bonjour Jean-Frédéric Caron.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
C'est moi qui vous dis merci pour venir parler de ce Gala de la Terre pour les enfants. Pourquoi ce Gala de la Terre pour les enfants?
Oui, ben donc à l'Orchestre de l'Agora, on existe depuis 2013, donc un jeune organisme professionnel qui a toujours eu des projets comme ça qui veulent faire une différence dans la société. Donc la plupart de nos concerts depuis notre existence ont toujours eu ce volet social-là.
Oui.
Puis le Gala de la Terre pour les enfants, c'est déjà en fait la deuxième édition de cet événement-là. On en avait fait un. On voulait en fait en faire un en avril 2020,
oui.
Qui avait été annulé à cause de la pandémie. On avait quand même remis 138 000 $ à l'époque à 3 organismes environnementaux.
Oh, bravo! Là,
enfin, cette année, on peut vraiment le faire devant public avec Marie-Nicole Demieux, qui est une soliste fantastique. Puis, on soutient encore autant des organismes environnementaux qui ont des projets ici au Québec comme Conservation de la Nature Canada,
oui.
Dans les Laurentides ou la Fondation Sierra Club Canada qui sont très très ancrés pour tous les projets qui protègent les voies maritimes du Saint-Laurent.
Mm-hmm.
Mais on soutient aussi UNICEF Canada qui évidemment que tout le monde connaît, un organisme humanitaire qui de plus en plus font des projets aussi qui vise à protéger l'environnement et l'environnement pour les enfants. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Gala de la Terre pour les enfants.
Ah, je vous dis merci, bravo à vous et à toute l'équipe.
Merci, on travaille fort depuis très longtemps pour mettre ça sur pied, mais on a vraiment hâte à la semaine prochaine.
Oui. Comment vous avez pu convaincre Marie-Nicole Lemieux?
En fait, c'est notre chef Nicolas Ellis qui est le chef d'orchestre et directeur
artistique
de l'Orchestre de l'Agora. Lui-même est aussi le fondateur d'ailleurs de l'Orchestre de l'Agora, mais il vient du Saguenay. En fait, il est natif de la région du Saguenay.
Oui.
Marie-Nicole Lemieux aussi. C'est entre autres dans ce contexte-là qu'ils ont travaillé ensemble avec d'autres organismes, d'autres orchestres ici au Québec, entre autres, je crois, les Bérons du Roi.
Oui.
Et c'est à cette occasion-là que Nicolas a développé une complicité musicale avec Marie-Nicole Lemieux.
Oui.
Puis quand il lui a parlé du projet, elle adore la troisième symphonie de Mahler qui va être jouée mercredi prochain à la Maison symphonique. Puis elle était super emballée là, de s'engager dans un projet comme ça qui soutient des causes qui lui tiennent à cœur aussi. Donc,
oui.
C'est un mélange, un heureux mélange de autant sa complicité musicale avec Nicolas Ellis que les causes.
Oui.
J'en suis convaincu.
Alors, comment vous vous sentez actuellement? On est à une semaine de l'événement, hein, disons. Est-ce que la promo, vous l'avez déjà faite, la promo est partie, les artistes sont prêts. Mais quand je vois la liste des musiciens qui seront 200 musiciens et choristes.
Ouais,
j'ai dit, mais comment Jean-Frédéric Caron et le chef d'orchestre, directeur artistique Nicolas Ellis, comment ils ont fait pour rassembler tous ces gorilles, tous ces chanteurs? Comment?
je voudrais comment je me sens. Je suis très fébrile. C'est des longues journées depuis plusieurs semaines.
Oui.
Ça va être l'aboutissement de tous ces mois-là de travail la semaine prochaine. Donc, je crois qu'il y a une grande fébrilité. Je crois qu'on a tous hâte dans l'équipe, les musiciens aussi, d'enfin que le projet arrive et se concrétise en réalité.
Oui.
Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est comment on a rassemblé en fait tous ces musiciens-là. C'est que l'Orchestre de la Gora, c'est un jeune organisme. On a quelques musiciens permanents qui jouent avec nous pour l'ensemble de nos projets, entre autres différents projets qu'on a. Par exemple, on a un partenariat avec le Centre de détention de Montréal où on envoie des musiciens à cet endroit-là pour faire des concerts-ateliers devant...
Vous n'avez que des beaux projets, Jean-Frédéric.
On a des projets comme ça.
Oui.
Nos musiciens font partie de ça, mais là, pour ce projet-là, Nicolas Ellis travaille avec beaucoup d'orchestres au Québec, puis ça va être un premier rassemblement, en fait, historique de musiciens qui ont des postes dans tous les orchestres au Québec.
Oui.
Quand je dis tous les orchestres, c'est l'OSM, l'Orchestre métropolitain, les orchestres de Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Rimouski, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laval, Longueuil, donc tous les musiciens qui ont des postes dans tous ces orchestres-là vont se joindre aux musiciens de l'Orchestre de l'Agora pour interpréter cette œuvre magistrale qui est la troisième symphonie de Mahler. Puis ça, ce rassemblement-là de musiciens qui ont des postes de partout au Québec, c'est vraiment quelque chose d'inédit aussi pour le 22 juin.
Donc, oui, ça doit être aussi un honneur pour eux. Ils doivent être contents de prendre part à ce grand événement.
Oui.
Parce que la Terre, quand on parle de la Terre, quand ça va être la journée de la Terre, c'est la Terre concerne chacun de nous. Hein?
Ben oui, puis c'est tellement... je pense qu'on ne se le cachera pas, c'est tellement inquiétant le contexte actuel. C'est juste aujourd'hui à Montréal, une pluie torrentielle. Je reviens à la course là, à mon bureau à cause de ça.
Oui.
À cause de l'orage de cet après-midi. Ce genre de... C'est juste un indicateur de tout ce qu'on vit en termes de changement climatique. Puis je pense que c'est important qu'il y ait des événements qui veulent encore plus sensibiliser.
Ça fait partie de mes sujets de prédilection ici, à l'émission.
Oui, vous faites bien. Ça prend une sensibilisation, mais là, avec cet événement-là, c'est plus que sensibilisé. On est déjà à plus de 235 000 $ qui sont amassés pour les trois organismes, puis on veut se rendre à 300 000 $. Donc,
wow.
C'est pour ça que je suis très content d'être à votre émission. On peut se rendre là en ayant des gens qui viennent acheter des billets puis qui viennent entendre l'orchestre. Mercredi prochain, le 22 juin, les billets sont en vente sur le site de la Place des Arts et sur le site web du gala, mais c'est vraiment comme ça qu'on va se rendre à l'objectif. Là, on y est presque, la salle est en train de se remplir là, en ce moment même, mais voilà, c'est une invitation à tous.
Je suis convaincu que ça va être ça. Elle sera pleine, la salle. Et puis, pourquoi avoir choisi la troisième symphonie de Gustav Mahler?
Oui, ben en fait, ça, c'est un choix de Nicolas Ellis.
Oui, directeur artistique,
Cette symphonie-là, elle est, entre autres, Gustav Mahler, à l'époque, il s'était beaucoup inspiré de la nature quand il a composé l'œuvre.
Oui.
Il avait même fait une retraite dans la nature pour écrire certains des mouvements.
Oui.
Donc, c'était une symphonie qui avait un lien logique là, avec le thème de la nature.
C'est ça.
Le thème de l'événement. Puis,
oui.
Puis c'est une symphonie aussi qui, comme c'est un gala de la Terre pour les enfants, c'est une symphonie qui comprend un chœur d'enfants, entre autres. Un chœur d'enfants et un chœur de femmes.
Mm-hmm.
Donc, plus de 100 musiciens là, sur scène vont s'ajouter.
Oui.
100 choristes, des petits chanteurs du Mont-Royal qui sont absolument fantastiques, les petites voix du plateau, l'ensemble Gaïa aussi, qui est un chœur de femmes, qui vont se joindre, dans le fond, aux musiciens derrière l'orchestre.
Mm-hmm.
Puis donc, le choix de la symphonie de Mahler, c'était entre autres aussi pour ça, parce que il y a des enfants même dans l'effectif de l'œuvre même. Puis, donc, c'était quelque chose qui se mariait super bien avec le thème de l'événement.
Oui, oui. Je pense bien que, bon, donc ça va être un événement, c'est un événement, ça devient annuel maintenant, une fois par année, quoi, à chaque fois à la journée de la Terre.
Oui, ben en fait là maintenant ce qui s'est rendu un événement à chaque 2 ans. Donc la prochaine édition du gala, on travaille déjà dessus, elle va être en dans notre saison 24-25.
Qui, oui, 24-25, oui.
Là, en fait, l'année prochaine, c'est 22-23, ça va être en 23-24.
Oui.
Puis la saison 23-24, c'est justement le 10e anniversaire de l'Orchestre de l'Agora. Donc, ce 3e gala de la Terre-là, ça va être...
Là, ça va être costaud, hein?
Oui, il y a déjà des belles idées là qui gravitent là, autour de ce 3e événement-là. Donc, on va se donner quelques jours après le 22 juin avant de plancher dessus, mais ça va revenir à chaque 2 ans. Mmh.
Est-ce que vous, personnellement, comment vous vous sentez de se retrouver à la tête d'un orchestre comme ça qui est socialement engagé?
Oui, mais c'est...
Est-ce que vous venez d'une famille dont les parents... était aussi engagé comme ça pour l'environnement, l'économie, le climat, l'écosystème, ou bien...
Oui, mais c'est drôle que vous me posiez la question parce que ça fait maintenant à peine là, 3 jours, je crois que ça fait 3 ans là, que je suis à la directeur général à l'Orchestre de l'Agora.
Oui.
C'est un bel anniversaire en même temps, cet événement-là de la semaine prochaine pour souligner ça pour moi personnellement. Mais au-delà de ça, en fait, oui, en fait, j'ai moi-même un bagage de musicien violoniste classique.
Oui.
Puis dans les premiers balbutiements là, de l'Orchestre de l'Agora, à l'époque, ça s'appelait l'Orchestre de la solidarité sociale. La grève étudiante de 2012.
Oui.
Puis moi, je m'étais joint comme violoniste à ces premiers rassemblements-là. Donc, ça fait longtemps que j'ai l'Orchestre de l'Agora sous mon radar.
Oui.
Au départ, c'était plus comme musicien.
Mm-hmm.
Puis ensuite, j'ai travaillé ailleurs dans d'autres organismes. Puis il y a ce poste-là qui s'est ouvert il y a 3 ans, puis ça me passionne beaucoup d'utiliser la musique comme ça. Je crois beaucoup à ça, personnellement. Je crois, en fait, à la musique classique, puis à la force de la musique qui peut amener aux gens.
Mm-hmm.
Puis je trouve que de vouloir, comme ça, la marier à des causes, j'ai toujours trouvé que c'était une idée vraiment brillante,
oui.
Que je vais pas m'attribuer, là. C'est Nicolas Ellis qui a fondé l'orchestre, puis c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé personnellement.
Oui.
Donc, de me retrouver à travailler chaque jour là, pour cet organisme-là, je dirais que c'est quelque chose qui me passionne grandement. Ça fait des longues journées parfois, mais c'est passionnant.
Puis vous avez du plaisir.
Oui, j'ai du plaisir. Ouais. C'est pas tout le temps. Des fois, il y a des choses moins agréables, comme dans n'importe quel travail, mais au final, je trouve que la mission, puis de sentir que tous les musiciens aussi ont un sentiment d'appartenance pour notre organisme, c'est quelque chose qui me motive grandement. Parce que je dirais que c'est aussi un truc qui distingue l'Orchestre de l'Agora, c'est qu'on engage beaucoup. Les musiciens sont vraiment au centre de la mission qu'on a, puis ils sont très engagés dans les projets qu'on fait.
Oui.
Entre autres, je pense à, exemple, notre violoncelle solo, Thomas Beard, qui est notre chargé de projet pour les concerts-ateliers qu'on mène à Bordeaux, ou encore notre flûtiste solo là, qui vient tout juste aussi de s'intégrer à notre équipe pour nos projets éducatifs dans la communauté. Donc, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. J'ai un bagage de musicien, j'ai un bagage aussi en gestion puis en marketing, mais je crois beaucoup à ce que les musiciens, en plus de leur travail de musicien, mettent les mains aussi dans le tout ce qui est le travail administratif, finalement. Puis je crois que c'est quelque chose que Nicolas souhaite aussi. Puis c'est le fun aussi de sentir que les musiciens participent aussi là, au-delà de la participation musicale.
Jean-Frédéric, oui. Est-ce que vous avez le temps de, puisque vous êtes musicien, vous-même, d'avoir du temps pour poursuivre votre carrière musicale? Parce que être directeur général de l'Orchestre de l'Agora, j'ai dit, c'est un poste quand même, hein? c'est toute une responsabilité. Même si Nicolas est le directeur artistique, est-ce que Jean-Frédéric Caron poursuit sa carrière musicale?
Je dois avouer que depuis les derniers mois, elle a été un peu mise de côté.
Ah bon, d'accord.
Le travail administratif a pris le dessus.
C'est ce que je me suis dit. J'ai dit non, il n'a même plus le temps de faire sa musique, même maintenant.
J'ai essayé. C'est toujours possible de sortir son instrument au moins une demi-heure par jour, essayer de trouver ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire jusqu'à il y a quelques mois. Puis là, je vais leur trouver mon instrument bientôt, mais pour l'instant, il a été mis de côté depuis quelques mois. J'ai encore ce plaisir-là d'en faire. Puis j'ai une famille aussi. J'ai un oncle, entre autres, là, qui est musicien. Puis c'est comme ça, beaucoup, que je suis entré dans cet univers-là. Puis j'ai voulu apprendre la musique classique. Puis je trouve que c'est important, justement, là, que des enfants soient en contact toujours là, avec la musique classique. Puis on va d'ailleurs inviter les enfants de 12 ans et moins là, avec un accompagnateur au concert du 22. Donc ça va vraiment être un beau public, autant de plus jeunes que de mélomanes.
Oui. Alors, pour comme parler d'enfants, je vais prendre la balle au bon en même temps. Pour les jeunes gens, mais les jeunes filles qui nous écoutent là, qui aimeraient faire partie de l'orchestre de l'Agora, comment ça se passe?
Oui, ben on a des auditions à l'occasion qui ils vont en avoir bientôt là, dans certains postes, je crois, mais c'est nos musiciens qui ont gagné un poste, c'est par audition.
Oui.
Sinon, on a évidemment aussi tout un bassin là, de musiciens surnuméraires professionnels assez fantastiques au Québec. Mmh. Puis nos premières chaises chaque année font appel là, à ce bassin-là de musiciens surnuméraires. Donc, c'est beaucoup par audition que ça peut fonctionner.
Oui.
Puis je dirais qu'il y a beaucoup d'orchestres aussi là, qui recommencent à faire des auditions qu'il n'y avait pas dans les deux dernières années de pandémie.
Oui.
Mais c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement.
D'accord, d'accord. Maintenant, avec la chute de toutes les barrières sanitaires, bon, ouais, tout le milieu culturel reprend vie, comme on dit, comme
ouais,
des fleurs.
Oui, ça fait du bien de voir ça, que... Oh. Montréal reprend un peu là, ses couleurs depuis les dernières semaines.
Ouais. Ouais. C'est comme si on se retrouvait dans un jardin et voit les fleurs en train de nous montrer leur beauté, quoi.
Ben oui, puis c'est tellement enthousiasmant. C'est quelque chose qui distingue Montréal de plein de villes dans le monde. Là, toute cette richesse et cette vivacité culturelle. Donc c'est le fun de voir que Montréal reprend, se retourne vers ça.
C'est ça. Ouais. Alors, pour les dernières 30 secondes qui nous restent, un dernier mot à nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore le billet.
Absolument. Ben, je vous invite tous et toutes à venir le 22 juin prochain à 20h à la Maison Symphonique pour le Gala de la Terre pour les enfants, qui mettra en vedette Marie-Nicole Lemieux, Nicolas Ellis, le chef, l'Orchestre de l'Agora,
oui.
Et 200 musiciens choristes sur scène. Donc, ne manquez pas ça. Les billets sont en vente sur le site de la Place des Arts.
Comme dirait l'autre, c'est du costaud, c'est du lourd.
Oui, du lourd, mais du léger aussi.
Du léger aussi, voilà. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Caron, directeur général de l'Orchestre de l'Agora. C'est pour le Gala de la Terre pour les enfants organisé par votre orchestre le 22 juin à la Maison Symphonique. Bon gala à vous et puis au plaisir de vous réentendre pour d'autres projets.
Merci beaucoup de l'invitation. Bonne soirée.
Allez, bonne soirée.
Au revoir.
C'est tout. Donc, gloire à eux qui vécurent dans le delta du Mississippi, qui inventèrent le blues, et puis tout modestement, je leur fais ce petit hommage. Eux qui ont eu la malchance de naître trop noirs sur un continent trop blanc. Cent ans dans la peau de l'esclave, et juste après, 100 ans de plus. Chercher des miettes sous les tables avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches. Chanter seulement le dimanche. Oh, tu vois la femme noire dans le rôle de la bonne, avec tout à côté, tout tordu son bonhomme. Après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait, eux qui ont fait Son House et Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Bien rouge le sang de l'Afrique sur la jolie fleur du coton. La toute nouvelle Amérique, la belle démocratie, welcome. Bateau déportant les villages au bout de l'immense voyage. Oh, gravé dans la mémoire pour des années-lumière, chaque larme d'ivoire, chaque collier de fer. Après ça, faut pas que tu t'étonnes.
c'est eux qui ont fait, eux qui ont fait Sonhouse et Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Toujours plaire aux marchands de fantômes,
eux qui ont fait,
elle qu'on achète et lui que l'on donne,
eux qui ont fait,
naître avec la peine maximum,
eux qui ont fait,
toujours vivant dans ce que nous sommes,
eux qui ont fait,
le peuple interdit du reste des hommes,
eux qui ont fait,
cherchant le bleu de l'ancien royaume. C'est eux qui ont fait, faut pas que ça t'étonne.
Eux qui ont fait
Sonhouse et Charlie Patton, Marin et Robert Johnson, Howling Wolf et Blind Lemon. Sonhouse et Charlie Patton. Toujours plaire aux marchands de fantômes, elle qu'on achète et lui que l'on donne, naître avec la peine maximum, toujours vivant dans ce que nous sommes, le peuple interdit du reste des hommes,
eux qui ont fait,
cherchant le bleu de l'ancien royaume.
Francis Cabrel, 100 ans de plus. Voilà, aujourd'hui c'est le 16 juin 2022, 16 juin 1976, Bendesson Soweto. Au départ, c'était une simple manifestation d'élèves pour protester contre une décision administrative. À l'arrivée, un massacre qui va choquer la conscience universelle et affaiblir le système d'apartheid. Récit de la journée de révolte du 16 juin 1976 à Soweto et du crime contre l'humanité commis par les autorités sud-africaines de l'époque. Oui. C'était le mercredi 16 juin 1976. 8h du matin, comme prévu 3 jours plus tôt, des milliers d'élèves de Soweto, grande banlieue située à quelques kilomètres au sud de Johannesburg, se rassemblent devant l'école Maurice à Isaacson, à l'appel de leur leader, Tietsi Machinini. Ils veulent en cette période d'examen manifestée contre la décision du gouvernement d'imposer l'Afrikaans, c'est la langue des Boers, c'est-à-dire les Sud-Africains blancs originaires de la Hollande, la langue des Boers qui ont instauré l'apartheid depuis 1949 pour l'enseignement de certaines matières, la géographie, les mathématiques et l'histoire. Pour les jeunes noirs de Soweto, il n'est pas question d'accepter cette mesure discriminatoire. Ouais. Donc, c'est suite à ça que devant l'école Morrison Isaacson, la foule des manifestants enfle. Les enfants, depuis 3 semaines du lycée, observent déjà une grève parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Oui, apprendre cette langue de la personne qui les opprime. Ouais, donc et plusieurs milliers sur les banderoles qui déploient, on peut lire leur opposition à l'africain dans cette langue-là qu'on veut leur imposer. Ce matin, ils comptent marcher dans tout Soweto avant de se retrouver au stade d'Orlando. Mais la police n'est pas disposée à les laisser faire. Armée jusqu'aux dents, elle a déjà investi les rues. Je parle de la police. Et donne aux manifestations l'ordre de se disperser. Refus dans un premier temps. Les policiers lâchent les chiens chez la foule. Ensuite, pour amplifier la panique, ils lancent des grenades lacrymogènes avant de tirer à balles réelles. Ouais. Pour ceux qui ont vu les images, j'ai encore les images qui me reviennent, de cette époque, 16 juin 1976, parce qu'il y a eu des films là-dessus aussi. Oui, la première victime, c'est un garçon de 13 ans, atteint dans le dos. Un photographe, Sabnzima, immortalise le moment où Peterson agonisait, est porté dans les bras par son camarade, Boisi Makulu, le visage ravagé par la douleur. Quelle tristesse! Ouais, plus de 700 morts, même presque 1000, officiellement, mais officieusement, c'est plus que ça. C'est ça. Et c'est pourquoi cette journée, 16 juin de chaque année, c'est devenu la journée de l'enfant africain. Ouais, c'était célébré d'abord uniquement en Afrique du Sud, ensuite c'est devenu la journée de l'enfant. Quelques années plus tard, c'est devenu la journée de l'enfant africain. C'est ce qui fait que je raconte d'abord l'histoire, comment ils en sont arrivés là, avant de parler de cette journée d'aujourd'hui, 16 juin 2022, qui est la journée de l'enfant africain. Voilà, c'est l'histoire de... C'est... Ah, donc le thème de la journée de l'enfant africain 2022, c'est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants en progrès sur les politiques et pratiques de 2013 d'ailleurs. Dans le comité d'experts, le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, établi conformément aux articles de les différentes chartes et autres, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de cette journée 2022, aujourd'hui. Oui.
Ouais.
Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Et plus jamais, de toutes les façons, il n'y aura plus de Soweto du 1976 parce que les enfants ont refusé d'apprendre cette langue, ouais, ces matières, mathématiques et autres géographies dans cette langue-là. Vous voyez, c'est un peu, ça rappelle un peu l'histoire. Ceux qui ont pu connaître un peu l'histoire de l'apartheid à cette époque, ouais, les meutes gagnent Soweto malgré la répression sauvage et aveugle à laquelle se livre le gouvernement et s'étend à d'autres banlieues noires autour de Johannesburg et très vite, quasiment l'ensemble du pays. Fait significatif, les étudiants et élèves blancs manifestent à leur tour au centre du Ganevo et expriment leur solidarité aux émeutiers de Soweto. C'était vraiment grand. Si vous tapez sur Google, émeute de Soweto, sur Google ou bien sur YouTube, vous allez voir, encore avoir des images. Oui, les élèves, les étudiants et élèves blancs se sont associés à leurs collègues, à leurs camarades noirs. Oui, et très vite, quasiment l'ensemble du pays. Ouais. C'est forces de sécurité continuent à faucher les vies. Ouais. Le 16, le 21 déjà, le 21 juin, on parlait déjà de 140 morts. Ouais, donc deux blancs, ensuite, parce que les jeunes étudiants, les élèves et étudiants blancs se sont joints aux étudiants noirs. Ouais, c'était sur question 500, 700, 1000 et autres. Donc, chaque année, le 16 juin, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Merci à toi Nicolas. On se retrouve le lundi. Cette fois-ci, je me trompe pas. Hein? Le mardi, tu sais. C'est Maurice qui sera avec moi le lundi aussi. Ok, on se retrouve le mardi. Merci à Myriam Larache qui est venue nous parler de sport, donner toutes les nouveautés. Et puis, je dis merci à notre invité qui est venu nous parler de ce gala de la Terre pour les enfants le 22 juin à la Maison Symphonique, Jean-Frédéric Caron. Et puis, un merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. Et Nicolas, bon week-end à toi. Et chers auditeurs, prenez soin de vos minutes. Et sur ce, je vous dis ciao.